Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode des Têtes Chercheuses, où donc on parle, on discute d'un article, d'une contribution scientifique en tout cas, et de la manière dont elle a évolué, ou dont elle a subi l'épreuve du temps, éventuellement, j'ai le plaisir de recevoir Julien Malizard, donc titulaire adjoint de la chaire économie de défense de l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études en Défense Nationale, qui est déjà passé dans le podcast il y a longtemps, c'était pendant le confinement, c'était dans le bunker, où vous nous aviez parlé de Lord of War, qui est pas très éloigné des préoccupations dont on va discuter aujourd'hui. Et Cécile Fauconnet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le Collimateur, puisque c'est la première fois qu'on vous reçoit. Vous êtes chercheur économie de défense à l'IRSEM, au sein du domaine armement et économie de défense. Et on est donc ici pour discuter d'un article, un papier, une contribution en tout cas, que vous avez écrit ensemble, avec un troisième co-auteur qui est Antoine Pietri, aujourd'hui maître de conférence à l'Université de Montpellier, qui est passé par l'IRSEM aussi il y a quelques années. Papier qui est donc en anglais, qui s'appelle French Arms Exports and Interstate Conflicts, an Empirical Investigation, paru dans un numéro spécial de la revue Defense and Peace Economics. Alors, il s'agit donc, on l'aura compris, ou pas forcément en fonction de mon accent anglais, mais de parler des exportations d'armes de la France et de l'impact, disons, de ces exportations d'armes sur les conflits, sur les guerres. Alors, c'est replacé dans un tableau plus général, puisque vous comparez la France avec d'autres pays, et bon, d'une manière générale, la question, c'est de savoir si vendre des armes, ça amène à plus ou moins de conflits, plus ou moins vous allez évidemment affiner tout ça. Mais d'abord, dites-nous peut-être comment s'est fait la genèse de ce papier, c'est-à-dire d'où est venue l'idée, d'où est venu le besoin, et ensuite comment est-ce que vous avez éventuellement choisi le casting d'ailleurs, comment est-ce que vous avez décidé d'écrire ce papier ensemble. Je sais pas qui veut commencer, Julien Malizard.
Oui, en fait c'est un papier qu'on a écrit à trois. L'idée de ce papier, c'était un peu de mélanger nos compétences, puisque j'étais plutôt intéressé sur les questions d'exportation au sens large, mais plutôt les mesures de l'exportation, l'exportation d'armes. Antoine, plutôt sur les Antoine Pietri sur les conflits armés. Et puis Cécile, qui était en recherche de financement pour sa thèse, souhaitait poursuivre sur ces questions de conflits et d'exportation. Et donc, tout naturellement, on s'est retrouvés à travailler ensemble, Cécile étant à ce moment-là stagiaire chez nous à la chaire économie de défense, et donc on lui a proposé de participer à la rédaction de l'article dans le cadre de ce numéro spécial Defense and Peace Economics.
Mais alors c'est très intéressant d'ailleurs, parce que c'est, on le voit en fait, c'est un casting donc de trois personnes qui sont à des moments différents de leur carrière, puisque vous étiez déjà docteur, déjà à la chaire économie de défense de l'IHEDN, Antoine Pietri était doctorant à l'époque, et vous, Cécile, vous n'étiez pas encore doctorante, mais vous alliez bientôt l'être. Donc comment est-ce que, parlons-en de votre point de vue, Cécile, c'était votre première publication, c'était une de vos premières publications?
C'était, alors en termes de date, pas vraiment, parce que ce papier a mis du temps à être publié.
Mais sinon, je précise qu'il a été publié en 2018, mais on sait que parfois ça prend du temps.
En 2018, il a commencé en 2016, si je ne me trompe pas. Donc en 2016, effectivement, c'est ma première expérience de recherche collaborative, dans le sens où j'avais déjà fait un mémoire précédemment sous l'égide d'Antoine Pietri, justement. Et voilà, moi j'avais vraiment envie de travailler sur les conflits civils. Et donc c'était un peu aussi l'objectif de faire une collaboration avec différents angles de, d'approche.
Et ils ont été gentils avec vous ?
Ils ont été gentils avec vous.
Mais alors, justement, l'angle, comment est-ce que vous avez, en quelque sorte, déterminé l'angle ? Et ensuite, aussi, la question corollaire, c'est qu'est-ce que vous aviez envie de montrer dans ce papier, si d'ailleurs tant est que vous aviez envie de montrer quelque chose de précis. Mais c'est-à-dire, comment est-ce que vous avez articulé à la fois l'hypothèse, l'idée, et ensuite, disons, la recherche de résultats ?
Bah,
Cécile Fauconnet ?
C'est plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'il y avait, moi j'étais en master d'évaluation des politiques publiques, donc il y avait une question de savoir si la politique publique telle qu'elle était affichée de la France était en cohérence avec ce qu'on observait empiriquement.
C'est-à-dire donc, la politique publique, c'était on vend des armes mais ça fait pas trop de mal.
Exactement, c'était le discours de on respecte les traités, on ne déstabilise pas les zones, on surveille bien nos clients à la fois en termes au moment de la signature du contrat mais aussi après. Donc c'était vraiment tout cet ensemble de discours politiques de savoir si c'était observable empiriquement, ces résultats étaient observables.
En quelque sorte, c'est l'anti-Lord of War, c'est-à-dire on vend. Non, mais c'est intéressant parce que Lord of War est un film, donc on en a déjà parlé évidemment avec Julien, mais un film qui est souvent convoqué par les gens qui parlent de vente d'armes, etc., parce que c'est un film qui a beaucoup marqué sur l'idée, et qui a marqué aussi l'idée que, qui n'est pas forcément totalement fausse tout le long, que vendre des armes, ça risque de mal finir sous certaines conditions. Mais donc là, le discours de la France, c'était en quelque sorte on vend des armes, mais soit ils s'en servent pas, soit ils s'en servent pour des bonnes raisons d'une manière générale.
C'est un peu l'idée. Après, en France, le principe de base, c'est un principe de prohibition, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'exporter sauf autorisation. Donc il y a vraiment une analyse qui est faite au niveau interministériel pour savoir quelles sont est-ce que les décisions qu'on peut prendre en matière d'exportation d'armes sont bonnes ou pas. Donc est-ce que ça respecte les traités, comme Cécile l'a dit ? Est-ce que ce sont des clients qui vont nous payer ? Est-ce qu'on ne va pas transférer les technologies à des pays qui, le moment venu, vont peut-être se avoir un comportement plus agressif vis-à-vis de la France. Donc il y a une vision un peu interministérielle sur les décisions. Et c'est vrai que le propos était vraiment de questionner empiriquement si les transferts d'armes tels que la France les pratiquent, est-ce que ça a des conséquences sur les clients pour essayer de vérifier la doctrine quelque part française de on exporte des armes, mais aussi on est là pour assurer de la sécurité. Et c'était un peu l'idée de ce papier, vérifier si jamais ça ne déstabilisait pas, soit au contraire, ça pouvait même...
Mais alors comment est-ce qu'on vérifie ce genre de choses ? C'est-à-dire, sans trop entrer dans les détails d'approche qualitative, quantitative, mais quand même, c'est-à-dire, on parle souvent, on en reparlera après probablement, parce qu'il y a il y a des actualités là-dessus toujours, mais on parle souvent des problèmes, c'est-à-dire de quand la France vend des armes à des puissances qui ensuite s'en servent pour des choses pour des utilisations qu'on peut considérer douteuses, mais il y a aussi des trains qui arrivent à l'heure, quoi. Il n'y a pas que des problèmes dans ces choses-là. Donc comment est-ce que, en quelque sorte, on procède pour voir toutes les facettes du problème et pour pas s'arrêter simplement sur les soucis qui sont très réels et dont il faudra reparler évidemment, mais comment est-ce qu'on fait pour, en quelque sorte, prendre en compte toutes les facettes de la question ? Cécile Fauconnet ?
On ne prend pas en compte toutes les facettes de la question, c'est pas possible, parce que ça supposerait d'avoir des données exhaustives sur l'ensemble des activités conflictuelles et commerciales, ce qui n'est pas le cas. Donc nous, on a fait des choix dans notre article, on s'est concentré uniquement sur les conflits civils, avec deux oppositions, le gouvernement contre la population, un groupe organisé ou non.
C'est-à-dire, alors on en parlait récemment dans une émission avec Emma Soubrier, mais globalement, quand on exporte des chars Leclerc, est-ce que ça sert à réprimer des manifestations, par exemple, ou est-ce que ça sert à faire d'autres choses éventuellement ?
Exactement, voilà. Donc ça, c'est le premier choix, donc c'est de se mettre uniquement dans ce cadre de conflits civils et pas de conflits internationaux, comme on peut s'y attendre. Et le deuxième choix, ça a été de se concentrer sur un type d'armes particulier, qui sont les Major Conventional Weapons, qui sont en fait les gros systèmes d'armes, qui ne sont pas les petits fusils, les choses comme ça que de toute façon la France ne produit pas ou très peu. Donc voilà, donc déjà on restreint la question à ce qui est accessible comme données et à ce qui nous semble pertinent de mettre ensemble.
Donc pas les fusils d'assaut et pas les missiles balistiques, puisque ça, de toute façon ça se vend pas beaucoup par la France, mais plutôt les choses intermédiaires. Alors si on a des exemples très concrets, c'est quel genre de choses, quoi ?
Eh ben, on va retrouver des avions de chasse, des frégates, des véhicules blindés, donc l'ensemble du spectre qui est produit par l'industrie française, à l'exception effectivement des armes légères et petits calibres, qui de toute façon en France, en tout cas pour les questions de défense sont plutôt restreintes. Il n'y a pas beaucoup d'industrie à Saumur.
Mais alors ces données-là, c'est-à-dire, alors je vais préciser tout de suite, c'est un article qu'on peut consulter en ligne par ailleurs, mais c'est ce qu'il y a de frappant et qui moi m'est pas très habituel, c'est qu'il y a des équations, ce qui pour moi est toujours très déroutant. Mais il y a beaucoup d'équations et vous en faites des choses. C'est-à-dire c'est très intéressant parce que moi n'ayant pas l'habitude de lire des articles avec des équations, ou en tout cas n'ayant certainement pas l'habitude de les comprendre, je suis prêt à croire absolument tout ce que vous me dites quand vous mettez une équation quelque part dans l'article. Mais qu'est-ce que vous, déjà vos équations, parce qu'on voit bien c'est des choses, c'est des questions de conflit, de vie, de mort, de dégâts, de vente d'armes, etc. Comment, quel type de données on prend pour les mettre dans une équation, et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de cette équation, qu'est-ce qu'elle montre, qu'est-ce qu'elle prouve, si tant est qu'elle prouve quelque chose d'ailleurs. Cécile Fauconnet.
Alors les données, donc on a plusieurs sources de données. On a des données, donc globalement c'est des données internationales, faites par des centres de référence. Pour les données d'exportation d'armes, c'est les données du CIPRI. Et pour les données...
Donc le CIPRI, on va rappeler, c'est le centre, c'est l'institut d'études sur la paix de Stockholm, donc un institut nordique qui produit des données chaque année sur les exportations d'armes. Enfin, qui produit beaucoup de données qui sont en libre accès, qui sont de qualité, donc qui sont très utiles pour tout le monde pour en faire des études, quoi.
Et la deuxième source de données, donc pour mesurer les conflits, ce sont les données du nombre de morts en fait constatées dans les pays dans le cadre de conflits civils. Et ça, c'est des données de l'UCDP Prio, qui sont pareilles, une base de données internationale très bien référencée, avec beaucoup de monde qui travaille dessus et qui sont relativement canons dans notre discipline. Et donc après, on va les mettre dans des équations, dans ce qu'on appelle des estimations linéaires. Donc en fait, on va expliquer un phénomène par les autres variables. Donc là, on va expliquer les conflits, l'intensité des conflits, donc le nombre de morts dans les pays en conflit civil, par donc les exportations d'armes et tout un ensemble de données classiques dans la littérature, comme le type de régime politique, la richesse du pays.
Et ça, c'est fascinant parce que ça veut dire que vous êtes capable de mettre des chiffres dessus. C'est-à-dire sur le régime politique, quoi. Il y a un indice de démocratie des pays, il y a un indice de... Enfin, c'est des chiffres qui existent et que donc on peut intégrer dans une belle équation, c'est ça, Julien Mélisard ?
En sciences politiques notamment, mais en économie, ça a été très largement utilisé. C'est des indicateurs qui sont construits par des centres de recherche qui ont pignon sur rue, comme le CIPRI peut l'avoir sur les questions de défense. Et donc on peut mesurer, effectivement, grâce aux données du Politifort, notamment les données liées au régime politique, est-ce que c'est démocratique, autocratique, dictatorial, est-ce qu'on respecte les droits de l'homme, est-ce qu'on va respecter les droits de propriété aussi. Il y a tout un tas de choses qu'on peut trouver, sachant qu'il y a aussi des indicateurs économiques très, très classiques, finalement, l'accès aux ressources naturelles, par exemple. Ça, c'est un phénomène qui est souvent bien documenté sur les conflits civils, donc on l'a intégré aussi. Donc on a une vision de modèle de conflit la plus générale possible pour un économiste, en tout cas.
Et alors, cette belle équation qui est en plein milieu, qui trône en plein milieu de l'article et que je ne comprends absolument pas, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle montre ? Quelles sont vos conclusions ? Qu'est-ce que l'équation montre ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est seulement l'équation qu'il montre ? Ou est-ce que c'est dans une interprétation plus large ? Voilà, quels sont les résultats de cet article ? Si tant est qu'on puisse les résumer. Évidemment, il vaut mieux lire l'article toujours, en entier. Mais s'il fallait nous en donner un résumé.
Oui, effectivement, oui. Alors, c'est pas l'équation en tant que propre qui va donner, c'est la résolution de l'équation.
Je suis encore un peu plus perdu.
Le fait de la poser ne résout pas en soi le problème, mais c'est les coefficients qui vont nous donner la résolution de cette équation. Et en fait, on a sur les variables de contrôle, donc ce qu'on disait, les variables démocratiques, les variables de ressources naturelles, de croissance, etc., de croissance économique, on a des résultats tout à fait standards avec notre littérature. Et nous, ce qu'on amène vraiment, c'est l'influence des exportations d'armes. Et on a les influences d'exportation d'armes mondiales et celles de la France. Et en fait, celles de la France, ce qu'on voit, ce qu'on peut dire de manière sûre, c'est un petit peu compliqué techniquement parce qu'il y a plusieurs étapes, mais c'est qu'on n'a pas d'effet déstabilisateur. On ne peut pas valider qu'on a un effet stabilisateur, donc ça veut dire qu'on ne va pas diminuer l'intensité d'un conflit qui existe déjà. Mais par
contre, on ne va pas prétendre non plus que les armes françaises apportent la paix partout.
Exactement,
dans le monde.
On ne dit absolument pas ça, on dit que ça ne déstabilise pas le conflit. Donc ça, c'est vraiment notre résultat principal de ce papier, même s'il y a plein de raffinements.
Julien Malizard.
Et donc, en complément, plutôt les autres exportations d'armes vont plutôt tendance à déstabiliser les conflits. C'est-à-dire on va mesurer une augmentation de l'intensité des conflits quand on exporte en dehors de la France. alors qu'un autre pays exportateur que la France exporte, ça aura une incidence déstabilisatrice. Donc le nombre de conflits, l'intensité des conflits va augmenter, donc il y aura plus de morts.
Et alors ça, c'est donc un résultat dont on comprend bien qu'il peut se mesurer éventuellement avec des mesures, qu'on peut avoir un chiffre. Est-ce que il y a une interprétation, enfin j'imagine qu'il y a une interprétation qui est derrière, mais qui est contenue là-dedans, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les armes françaises, les exportations d'armes françaises semblent moins déstabilisatrices que les autres?
Ben en fait, on a essayé de poursuivre l'analyse. C'est vrai que le résultat nous a un petit peu surpris. On a été quand même. C'est un résultat qui est hyper robuste. C'est-à-dire qu'en plus, on l'a tourné dans tous les sens. On a fait plein de modèles, plein d'estimations. Et peu importe les estimations, on a toujours obtenu les mêmes résultats. Donc en fait, ça nous a poussé à aller chercher plus loin des explications. On a essayé d'en trouver deux, qui sont dans la dernière partie du papier. C'est d'une part essayer de regarder si la façon dont on sélectionne les clients de la France, donc les pays à quels on va exporter, on sélectionne bien, c'est-à-dire qu'on va avoir, donc on a fait une autre estimation statistique, économétrique, où on a regardé quelles étaient les décisions de la France d'exporter oui ou non des armes, et en fait on s'est rendu compte qu'on respectait plus ou moins bien les traités, enfin, plutôt plus que bien d'ailleurs. Donc ça, c'est un résultat. En fait, la sélection des clients est plutôt bonne. Et l'autre résultat qu'on a essayé de trouver, c'est par les types d'armes. En fait, on a regardé on peut comparer la structure du commerce française avec la structure du reste du monde. Et en fait, on s'est rendu compte que les armes françaises étaient plus de nature défensive en termes d'exportation que le reste du monde. C'est-à-dire qu'on aura tendance à exporter davantage des radars, des senseurs, une partie électronique que le reste du monde, et beaucoup moins sur d'autres types de matériel qui sont jugés peut-être plus critiques dans l'explication des conflits. Voilà, c'est
Cécile Vauconnet.
Oui, tout à fait. C'est vraiment, une fois qu'on a eu ces résultats, on s'est vraiment demandé pourquoi on en arrive à ça.
Pourquoi la France œuvre tellement pour la paix?
Alors, œuvre tellement, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ne déstabilise pas.
Non, mais par ailleurs, c'est un truc qui est relativement intéressant de se questionner là-dessus. C'est-à-dire, vous êtes des chercheurs français qui travaillaient sur la France, qui êtes rattachés plus ou moins directement d'ailleurs à l'institution française. Enfin, c'est aussi une partie du problème, quoi. Et du coup, quand on trouve un résultat comme ça, est-ce que on a tendance à dire bon, bah, c'est très bien, on est très fort, ou est-ce qu'on a tendance justement à essayer de se double guesser, enfin de se pousser soi-même en se disant bah, c'est quand même un peu embêtant que des chercheurs français prouvent que la France est meilleure que les autres. Enfin, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on aborde ce truc-là quand en plus c'est un papier qui est en anglais, qui va être présenté donc à un public international. C'est-à-dire voilà, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à un résultat comme celui-là? C'est ce que tu connais ?
Ouais, peu importe un peu le résultat, on va toujours essayer de trouver l'explication la plus juste et la plus proche de la réalité possible, qu'on ait un résultat positif ou négatif. En fait, l'objectif, c'est toujours de creuser et de comprendre pourquoi on observe ça. Et dans ce cas-là, en fait, peu importe le sens dans lequel on l'aurait trouvé, il fallait de toute façon aller plus loin pour comprendre c'est quoi le canal de transmission de cet effet stabilisateur ou déstabilisateur des exportations. Et quoi qu'il arrive, bah, ça reste un choix politique et un type de matériel.
Julien Malizard ?
Je pense que Cécile a tout dit. Effectivement, je pense que c'est vrai que la difficulté qu'on a, c'est que nous, quand on a vu le résultat, comme je disais tout à l'heure, et quand on a vu le fait que, peu importe la spécification économétrique qu'on prenait, on avait toujours le même résultat, on s'est interrogé en se disant, bon voilà, c'est encore les chercheurs français qui vont s'auto-congratuler et dire qu'on est très très fort et que ça va dans le sens du ministère. Et c'est pour ça que, en plus, c'était le numéro spécial que je coordonnais, je trouve que c'était important aussi d'insister sur le fait qu'on aurait pu s'arrêter au résultat, ne pas vraiment chercher la raison. Et je suis tout à fait d'accord avec Cécile. On a vraiment questionné, on a essayé d'aller le plus loin possible compte tenu de la structure des données qu'on avait, sachant qu'il y a plein de choses qu'on ne mesure pas. On ne sait pas, par exemple, des choses sur... on va exporter des armes, mais peut-être que, je dis n'importe quoi, à un pays type l'Arabie Saoudite, mais l'exportation qu'on a faite il y a 20 ans, comment on fait pour, empêcher l'Arabie Saoudite de l'utiliser? Là, on est vraiment dans une logique qu'on peut pas... On ne peut pas mesurer quel type d'armes vont être utilisées par quel type de pays dans certains nombres de conflits. Donc en fait, là, on va buter sur cette difficulté.
Mais justement, ce que j'allais dire, c'est donc vous avez eu ce résultat. Comment est-ce qu'il a été perçu et dans quelle mesure? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu des retours? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il a été reçu, réutilisé, critiqué ou pas? Est-ce que ça a déclenché un débat ou pas, d'ailleurs? Ce qui n'est pas forcément le destin de tous les articles scientifiques non plus.
Déjà, je pense que c'est nécessaire de rappeler qu'on a une grande limite sur nos données et qu'on tout à fait a été comprise quand on l'a présentée en conférence scientifique. C'est que le CIPRI, ce n'est que des données de douane. Donc en fait, ce qu'on compte dans notre modèle, c'est quand les armes, enfin le volume des armes qui vont arriver sur un territoire à un temps donné. Donc ça ne correspond pas à la période du contrat. Et ça ne préjuge pas de comment elles sont utilisées après. On ne sait pas si ça va être utilisé dans un conflit civil dans un autre pays que le pays de réception, par exemple.
Ah, c'est s'ils les revendent ou s'ils les renvoient.
S'ils les revendent ou si, par exemple, pour le Yémen, elles n'ont pas été achetées par le Yémen, forcément, les armes, et elles se retrouvent sur ce terrain-là. Et ça, dans notre modèle, c'est pas du tout compté, parce qu'on n'est pas capable de les suivre, en fait, ces armes, malheureusement. Si on pouvait les observer, ça serait plus facile. Et la deuxième chose, c'est qu'aussi, on travaille sur une période restreinte. On travaille vraiment sur 1992-2014, donc qui ne concerne pas aussi beaucoup d'actualités qu'on a aujourd'hui et qui font débat. Donc ça n'a pas amené sur ce débat-là.
C'est ce que j'allais vous demander. C'est un article qui date pas tant que ça, mais quand même, il a 2-3 ans maintenant, qui a été écrit, entamé bien avant, encore 2 ans avant. C'est-à-dire, si maintenant il fallait pas le réécrire, mais le prolonger, l'actualiser, le éventuellement modifier la voilure, parce que, bon, on va le dire, c'est un sujet de débat actuel. Alors, par exemple, les armes que la France a vendues à l'Égypte, qui sont utilisées en Libye, les armes que la France a vendues à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats, qui se retrouvent peut-être, sous certaines conditions, au Yémen. Ça rentrerait d'ailleurs pas forcément dans le spectre de votre article, mais c'est-à-dire s'il y avait des tentations de retoucher cet article, de le prolonger, de l'actualiser, quelles seraient-elles?
On y a réfléchi justement, on s'était dit qu'il y avait peut-être une chose à faire qui était... On s'arrête en 2014 parce que c'est aussi le début du traité sur le commerce des armes. Donc en fait, il y a en théorie... on peut espérer un effet du traité sur un certain nombre de pays qui exportent des armes et qui l'ont signé. La France l'ayant signé, évidemment. Donc on pourrait regarder s'il y a un effet stabilisateur ou déstabilisateur. Espérons-le stabilisateur avec ce traité sur le commerce des armes. Donc ça, c'est un premier truc qu'on pourrait faire, c'est-à-dire élargir la base de données sur la période la plus récente, comparer ce qu'on a déjà fait, comparer la période récente pour regarder si jamais le traité a eu un effet positif ici sur l'intensité des conflits civils. Mais après, on peut difficilement faire beaucoup plus relativement, même si les bases de données se sont étendues jusqu'à présent. On peut aller difficilement plus loin que ça, parce que finalement, on ne sait toujours pas quelles armes se retrouvent sur quel conflit, quel est le pays exportateur. Cécile a parlé aussi de la possibilité de réexport, et ça, c'est une problématique très très forte. On ne trace pas forcément bien les armes majeures.
Oui, et en même temps, ça dépend pour lesquelles. Enfin, c'est-à-dire, des radars, on comprend que ce soit difficile à tracer. En même temps, si on voit arriver un Rafale dans des mains de type à qui on l'a pas vendu, on risque de se douter de quelque chose quand même à un moment, d'une manière ou d'une autre. Mais cela dit, ça en fera pas forcément un chiffre utilisable.
Et encore faut-il que les zones de conflit soient... où il y ait des journalistes qui soient présents, que ça soit documenté, parce qu'il y a aussi beaucoup de conflits où c'est l'observation de témoins sur place, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont pas diffusées, ou en tout cas pas, où il n'y a pas de témoins aujourd'hui des choses, donc il faut aussi pouvoir l'observer, en fait.
Mais justement, donc puisque vous avez une équation, et que je suis désolé, je me fixe un peu là-dessus, mais non, mais c'est parce que ça m'intéresse et ça m'intrigue aussi. Est-ce que c'est autant d'un truc qualitatif, c'est chronologiquement situé, quoi, autant une équation, ça peut éventuellement être intemporel, même si on peut la modifier. Est-ce que vous l'utiliseriez pour, avec d'autres données, est-ce que vous pensez qu'elle est bonne dans l'absolu, ou est-ce que vous pensez que c'est une équation qui est limitée à la période que vous avez utilisée?
C'est vrai que le modèle est quand même assez général, donc je pense qu'il a un potentiel de réutilisation qui est assez important. Après, on n'a pas... En fait, on a un modèle théorique, mais qui est très très liminaire, c'est-à-dire qu'en fait on s'est essentiellement appuyé sur les travaux de la littérature pour fonder ce qui nous semble être l'équation de conflit qui est la plus vraisemblable possible relativement aux données disponibles et à ce que montre la littérature. Mais donc l'intérêt de cette approche-là, c'est que finalement on peut facilement la réutiliser dans d'autres contextes. Nous on s'est intéressé aux conflits civils. On pourrait très bien s'intéresser aux conflits internationaux, quand même il n'y en a plus beaucoup au niveau international dans les données, très très peu finalement. Donc finalement, c'est facilement généralisable, en fait, c'est l'intérêt de l'approche.
Très bien. Bah, merci beaucoup à tous les deux. Donc, je rappelle le titre de cet article, de cette contribution. Donc, French Arms Exports and Interstate Conflicts, an Empirical Investigation, par Cécile Fauconnet, Julien Malizard et Antoine Pietri, paru en 2018 dans un numéro spécial de la revue Defense and Peace Economics.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.